Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour et bienvenue à cette émission hebdomadaire. Nous sommes le mercredi 21 mars et comme chaque mercredi, eh bien, vous allez pouvoir écouter des sons, des extraits de films, des interviews et puis des chroniques sur les films qui sortent cette semaine et puis qui sont déjà sortis. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour. Bonjour à tous.
Et on va développer ce sommaire. Alors Marine, de quoi tu vas nous parler ?
Je vais vous parler de Clo-Clo, de Projet X et de 38 et moins.
Voilà, c'est un grand écart entre Clo-Clo et Projet X, hein, j'ai l'impression. Et toi Manu, ta chronique autour du bis ou...
Enfin, ça, donc le film de John Carpenter, Assaut, enfin, un de ses tout premiers films, qui ressort en fait dans une belle copie. Enfin.
Un film de 76 qui est passé pour un film culte, qui a été pompé. Enfin voilà, on découvrira ça dans ta chronique. Et puis, eh bien, moi, je vous parlerai... Alors, on a parlé de 38 témoins avec l'interview de Lucas Bellevaux, qu'on a rencontré hier dans les bureaux du Diagonal. Donc, ça sera la première interview. La deuxième interview, alors, ce sera seulement si on a le temps, c'est Merzak Alouache qui sort une espèce de documentaire fictionné ou plutôt une fiction documentée qui s'appelle Normal. Ça sort aujourd'hui aussi. Et puis, on aura aussi, eh bien, par téléphone, Michel Perrier, qui est président de Pêcheurs d'Images, qui organise eh bien, les semaines du cinéma méditerranéen de Lunel. Et puis, parmi les films qui sortent aujourd'hui, eh bien, il y a L'Adieu à la Reine de Benoît Jacquot. Et ce sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, de jouer un blind test pour reconnaître les films où apparaissent des princesses et des reines.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Et on commence tout de suite avec Clo-Clo. Ah, les paroles mythiques de Étienne Rodagil. Alors, prédestiné de par son physique à jouer Claude François, depuis sa première apparition chez les frères Dardenne à 13 ans, Jérémy Régnier s'est enfin vu confier le rôle du célèbre chanteur à mèche par le réalisateur Florent Emilio Siri, qui était lui plus habitué auparavant à évoluer dans le milieu du film d'action. Ce qui confère probablement au film son rythme enlevé qui tient aisément pendant les 2h30 de sa durée. Comme d'habitude dans les biopics, on a droit à une reconstitution un peu téléphonée de l'enfance du personnage central, entouré de ses deux parents qui, comme d'habitude, ne vieillissent pas durant tout le film. Heureusement, le scénario sait s'attarder sur les aspects négatifs du chanteur au lieu d'en analyser l'ascension vers le succès, et c'est en cela qu'il rend le film attachant. En décortiquant sans compassion la personnalité d'une star confite de narcissisme et la fascination qu'elle exerce malgré tout, Clo-Clo parvient à ne pas se laisser dépasser par son sujet tout en donnant au spectateur la juste dose de divertissement auquel il aspire. Le réalisateur a le bon goût de ne pas s'étendre sur des événements larmoyants qui rendraient le personnage sympathique. Ce qui arrivera de pire au chanteur sera de se faire piquer sa première femme par Gilbert Bécaud. Même ça, c'est vrai que ça ne doit pas être facile à vivre quand même. Comme souvent dans les biopics de chanteurs, on a droit à quelques raccourcis sur les tourments de l'inspiration artistique. Ici, par exemple, on retrouve Claude François au bord de la piscine. Il se met à fredonner « Je me lève et je te bouscule » et paf, ça fait un tube. Et oui, des facilités que l'on pardonne, car le film parvient quand même à ressusciter une légende sans trop de maniérisme. On évite également le défilé d'acteurs connus venus faire leur numéro, auquel on avait droit dans La Môme, par exemple, à l'exception notable d'un Benoît Magimel dans le rôle de l'imprésario Paul Lederman, méconnaissable en producteur bouffi tout droit sorti du sentier, dont on ne sait dire si la performance est incroyablement bluffante ou extrêmement ridicule. Alors, si la mise en scène n'a pas l'inspiration d'un Gainsbourg, pardon, vie héroïque, et se permet parfois quelques tics de réalisation un peu surfaits, dont la dernière scène de douche qui va jusqu'à prendre des allures de psychose, le tout demeure efficace et maîtrisé, porté par un Jérémy Régnier eh bien, qui n'avait déjà plus rien à prouver. Donc je vous le conseille.
Alors toi Manu, tu l'as vu aussi, hein, donc oui. Peut-être donner un petit avis aussi.
Oui, qu'est-ce que tu penses de Benoît Magimel surtout, parce que moi je reste interloqué.
Je l'ai trouvé assez ridicule en fait.
Ouais, d'accord. Deuxième option.
Mais comme dans beaucoup de films en fait. récents, je trouve, je sais pas. Benoît Magimel, il a un petit problème. Enfin, je sais pas.
Apparemment, il joue forcément dans tous les films de Florent Emilio Siri, donc c'est pour ça qu'on le retrouve là dans un rôle assez inattendu.
Il devrait arrêter de avec ses transformations physiques.
Il y en a avec qui ça a réussi. Hein.
Clo-Clo.
Donc, si vous voulez le voir, c'est au Gaumont Multiplex de Gaumont Comédie.
Et au CGR, j'imagine, et dans d'autres cinémas.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Nous sommes en 1789 et nous vivons la prise de la Bastille côté cour de Versailles et dans un bref laps de temps. Tout ce que l'on voit des répercussions de cette prise audacieuse de la prison où dormaient quelques prisonniers, ce ne sont que quelques jours, trois exactement, trois jours de la vie de la liseuse de la reine Marie-Antoinette, Sidonie Laborde, interprétée par Léa Seydoux, une jeune femme qui a renoncé à tout et qui est amoureuse de sa reine presque aveuglée, on pense à l'image de la groupie, et qui n'ose croire aux événements puisque cette agitation populaire pourrait l'éloigner de celle qu'elle adule, mais dont elle n'a pas toutes les faveurs, puisque l'Autrichienne, jouée par Diane Kruger, préfère Gabrielle de Polignac, interprétée par Virginie Ledoyen. Alors c'est le parti pris choisi dans l'ouvrage de Chantal Thomas, dont Benoît Jacquot a réalisé une adaptation avec Les Adieux à la Reine. Il n'y a pas un point de vue omniscient qui nous ferait voir la cour de Versailles chez les aristocrates et qui glisserait soudainement dans les cuisines. Tout ce que nous voyons de la cour et de Marie-Antoinette est vu par notre fragile héroïne Sidonie. Une Sidonie qui, heureusement, se cache parfois pour entendre ce qu'elle ne devrait pas entendre.
Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine.
Je sais que vous m'êtes entièrement dévouée.
Mais qu'avez-vous à vous gratter ainsi?
Vous avez osé vous gratter devant la reine?
Avez-vous déjà été atterrée par une femme au point de souffrir horriblement de son absence?
Je crois deviner de qui vous me parlez. Et je l'envie d'être ainsi aimée à la folie d'une telle amitié.
Cela l'a réussi son coup. Une petite provinciale endettée favorite de la reine en un tournement. Moi, je te dis que c'est une putain.
Vous connaissez pas la nouvelle ?
Tout ce que j'ai compris, c'est le mot Bastille.
La Bastille ?
Louis XVI n'est plus libre de ses décisions. Il est l'otage de l'insurrection.
C'est la liste de 186 têtes qu'il faut couper. Les deux premiers noms sont ceux de la reine et de la duchesse de Polignac.
J'ai peur, Alice. J'ai peur pour elle. Je resterai auprès de la reine tant qu'il le faudra.
On dirait que cela vous comble.
C'est à cause de moi que le peuple réclame votre tête.
Quittez la France.
Refusez ce que la reine va vous demander.
Mais je ne peux rien refuser la reine.
Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine. Bientôt, je serai loin de Versailles. Bientôt, je ne serai plus personne.
Elle ne vit que pour les yeux de sa reine. Donc, Les Adieux à la Reine, c'est avant tout un amour qui relie trois femmes à différents degrés. Un amour insensé de la reine pour Madame de Polignac, qui a su s'imposer comme la favorite et qui sait aussi se refuser jusqu'à rendre la reine folle. Et puis, c'est évidemment Sidonie, la suivante, qui aimerait se rendre indispensable aux yeux de celle qu'elle admire. Marie-Antoinette étant un personnage comparable à la reine d'une ruche devant laquelle s'agitent ouvrières et courtisanes. Alors si Les Adieux à la Reine nous avait raconté la cour de Louis XVI quelques mois avant la prise de la Bastille, on aurait eu droit à un film peut-être sans saveur, un portrait de femme. Mais l'événement capital de la prise de la Bastille que l'on vit durant ces trois jours permet de rythmer le film. En période calme, on voit une douce Marie-Antoinette qui aime la lecture, la mode et qui ravit Sidonie d'être si proche de celle qu'elle adule. Puis quand survient le soulèvement populaire, on a affaire à une reine contrariée, odieuse et sujette aux sautes d'humeur, ce qui désempare la suivante.
Mademoiselle Laborde va m'aider à désosser les pierreries de sa majesté. Et à deux, nous serons plus rapides.
Il ne faut surtout pas oublier le costume marin de mon fils et le chapeau de paille pour ma fille. Le soleil lui donne la migraine.
Je crois qu'une perle est tombée par là.
Je vais voir. Il me faudra aussi des théières, des cafetières,
et des chocolatières. Et puis, mon nécessaire à tricoter et enrouer. Madame Campan.
Oui.
Notez tout ça. Que sais-je après tout des soirées à Metz.
On va s'ennuyer, mourir.
Augustine, aidez-moi à retirer ces bracelets.
Augustine est partie chercher Monsieur Léonard.
Oh, et Mademoiselle Laborde, où est-elle passée encore?
Elle est là, elle est derrière vous.
Je ne la trouve pas. Mais venez ici. Ce n'est pas une paire de fines qui nous sauvera du naufrage. Ayez la bonté de me retirer ces bracelets. Qu'avez-vous à pleurnicher? N'ayez crainte, je ne vous abandonne pas. Je serai bientôt de retour avec le régiment du comte d'Estarasie.
On ne peut pas dire que la révolution naissante fasse plaisir à Sidonie. Elle sent bien que sa reine lui échappe, que tout fout le camp. Les aristocrates promis à la guillotine pensent à s'échapper de ce Versailles qui vacille peu à peu. L'agitation permet de voir le délabrement de la cour versaillaise, signe que les temps ont changé. La dorure, les lustres, les tapisseries sont un aspect de Versailles qui cache aussi des recoins lugubres et mal tenus habités par les sujets de la cour. Un plan séquence surprenant nous montre cet endroit où la peur et les interrogations ont pris le dessus sur la frivolité et les bavardages. Sans parler des appartements dessuivantes et des cuisines où Sidonie passe une partie de son temps et entend les ragots qui agitent le château. Le film de Benoît Jacquot est habité par la modernité, choix des lumières, choix du cadre, caméra épaule, rythme des séquences, ce qui est assez inhabituel dans les films historiques, il faut bien le dire. S'attachant à la fragilité de son héroïne qui va finir par confondre rêve et réalité sans mesurer véritablement les conséquences de la révolte, il filme l'effondrement d'un monde en quelques jours. Alors le film tire aussi sa force des décors, des costumes et de l'interprétation, qu'il s'agisse de Diane Kruger et de Léa Seydoux qui doivent changer de registre, passant de la douceur à l'inquiétude jusqu'à la tristesse. Et on appréciera aussi la fraîcheur de Julie-Marie Parmentier, une autre suivante, confidente de Sidonie, ou Madame Campan, bien campée, dois-je dire, par Noémie Lvovsky. Voilà, donc je recommande vraiment ce film de Benoît Jacquot qui sort aujourd'hui sur les écrans et qui passe au cinéma Diagonale et puis aussi au Gaumont et CGR. Et ce film en costume avec une reine et puis toute sa cour nous donne l'occasion de jouer un blind test où, chers auditeurs, vous allez devoir reconnaître eh bien, des films qui font apparaître des reines ou des princesses. Voici le premier extrait.
Ils me détestaient pas trop vite. Ils me haïssent tous déjà. Vos frères, les Guises, bien sûr. Et votre mère ne m'aime pas beaucoup.
La vôtre ne m'aimait pas non plus.
La vôtre a tué la mienne.
Rien ne le prouve.
Vous faites semblant d'être forte, mais vous avez aussi peur que moi.
De quoi aurais-je peur? Tous ceux qui ici vous détestent même.
Alors pourquoi vous impose-t-il ce mariage?
C'est un mariage pour la paix. Personne ne m'oblige à coucher avec vous.
Un mixage un peu à la va-vite hein, pour tout ce film. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le mixeur, mais il était complètement à côté de la plaque. En revanche, ça a été trouvé par Marine.
La reine Margot.
Voilà, c'est la reine Margot. On a bien entendu donc, eh bien, la voix de Daniel Auteuil et d'Isabelle Adjani, la petite bagarre entre les protestants et les catholiques. Le deuxième extrait.
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Eh bien, on ne marie pas les
Merci
filles avec leur papa.
Merci pour cette leçon de vie, hein, quand même.
Alors, ça a été trouvé, évidemment, c'est Peau d'âne. Et donc, ce film de Jacques Demy. Ça vous a laissé un bon souvenir?
Ah, très bon, je l'ai revu la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai trouvé tout de suite.
Ah, d'accord, ok. Allez, un autre.
La tribu des orangs-outans.
Insolent! Qui vous rend ainsi hardi de troubler notre paix?
forêt à nous. Donnez-nous humains. Donnez-nous humains et partez. Disparaissez ou vous coûterez de nécro. Nous mangeons humains. Nous mangeons humains. Oui, donnez-nous humains à manger. Humains à manger.
Quelle est cette folie? Vous que tous considèrent comme les sages de la forêt, qu'est-ce qui vous prend de vouloir manger les humains?
En mangeant humains, on reçoit force. Avec force, on peut chasser autres humains. Donnez-nous humains.
Imbécile! Si vous mangez leur chair, vous ne posséderez pas la force des humains. Vous serez transformé en une chose terrible. Plus terrible encore qu'un humain.
Ça a été trouvé, Marine, c'était
Princesse Mononoke.
Ah oui, il y avait Princesse dans le titre. Voilà, c'était la petite femme louve. Film de Miyazaki, grand succès chez les jeunes filles, notamment.
N'importe quoi. Pas du tout. Mais grand succès chez tous les cinéphiles du monde entier.
Voyons. Ah, chez tous les... Non, mais c'est une princesse
tout
un peu...
Tout de suite, les préjugés, c'est une princesse de princesse.
C'est une princesse un peu particulière. J'ai choisi plutôt un Miyazaki, parce que j'aurais pu taper dans beaucoup de films de Disney, hein, il faut bien l'avouer. Voilà. Mais j'ai préféré choisir un Miyazaki, parce que là, la princesse est bien différente du monde de Disney. Voilà, c'était plutôt ça que je voulais dire. Merci Marine de me permettre de préciser tout cela.
Du fait que la princesse Diana ne faisait plus partie de la famille royale, nous devons absolument nous conformer aux souhaits des Spencer.
Certes, mais... Ne pensez-vous pas qu'étant donné sa célébrité et sa popularité, on pourrait, je ne sais pas, peut-être rendre un hommage officiel à son action humanitaire? Ou ne fût-ce qu'à Diana en tant que mère?
Pardon d'insister, c'est sa famille qui a fait ce choix.
Et le peuple, madame? L'opinion publique? Ne croyez-vous pas que des obsèques privées lui ôteraient...
Lui ôteraient quoi?
Le droit d'exprimer son chagrin.
Il ne s'agit pas d'une fête foraine, monsieur, mais de funérailles. Je crois que la presse anglaise n'a que trop persécuté la princesse en la livrant en pâture à l'opinion publique, ne trouvez-vous pas? Bien, je vais vous laisser s'il n'y a plus rien d'autre. Il faut que j'aille m'occuper des enfants.
Je comprends. Très bien. Au revoir, ma...
Tony Blair qui se fait raccrocher au nez. Marine, ça a été trouvé?
C'était The Queen.
Voilà, The Queen, film de Stephen Frears de 2006, autour de la mort de Diana et comment la reine, finalement, ne prend pas la mesure de l'ampleur de cette mort vis-à-vis de son peuple, hein, qui était très attaché à cette reine. Alors, le dernier extrait fait référence aussi à Lady Diana, mais cette fois-ci dans une forme de comédie à la française.
Mais c'est pas du tout par là la maison, maman.
Mais on va passer par le jardin, c'est plus joli.
C'est plus magnifique.
Voilà, c'est plus magnifique. Oh, pardon.
On vous surprend à la sortie de l'école avec Princesse Constance et Princesse Louise.
Ben oui, je vais chercher mes enfants à l'école, comme toutes les mamans du monde.
Ah, une maman, mais aussi une femme. Une femme qui a su pardonner à son époux pour protéger sa famille.
Vous savez, dans ces cas-là, je crois qu'on réfléchit pas, on agit, on avance. J'ai deux petites filles que j'ai l'impression d'avoir réussi à épargner, à éloigner de tout ça. Avec beaucoup d'amour, voilà, tout simplement.
Une mère, une femme... mais aussi une citoyenne, qui s'inscrit de plus en plus, comme on a pu le voir récemment, dans la vie de notre pays, surtout en faveur des plus démunis.
J'essaie d'agir à mon petit niveau, évidemment. Par exemple, j'ai décidé d'organiser une grande journée 4 quarts pour le quart monde. Si chacun d'entre nous faisait un 4 quarts, c'est tellement simple. 4 œufs, 250 grammes de farine, de beurre, de sucre. Je crois que le monde tournerait plus rond.
Voilà. Tout l'humour de Valérie Le Mercier, ça a été trouvé, Marine. C'est
Palais Royal.
C'est Palais Royal, effectivement. Voilà, oui. Ainsi s'achève ce blind test que tu as réussi.
Mais c'est parce que je suis une fille, donc je suis un peu une princesse, alors je connais un film de princesse.
Mais t'avais vu tous ces films ou pas?
Non, pas du tout. Ah. C'est uniquement de la culture.
En tout cas, ça a été un zéro pointé du côté de Bruno, hein, qui a la technique, qui d'habitude nous trouve quelques titres, et là, non, c'était raté. Avant de retrouver par téléphone Michel Perrier pour les semaines de Lunel, on retrouve le cinéma bis.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Hasard des calendriers, l'un des tout premiers films de John Carpenter ressort donc un mois après son dernier The Ward, chroniqué ici même il y a quelques semaines. La sortie donc en DVD, en Blu-ray et en Blu-ray chez Metropolitan d'Assaut est en soi un petit événement qui ravira les amateurs du cinéaste frustrés par les éditions précédentes absolument indignes. En effet, si la version intégrale était présente, à contrario de certaines diffusions télé, il fallait se farcir une copie atroce aux couleurs délavées et à l'encodage vraiment lamentable, à peine digne d'une VHS bon marché. Depuis le temps qu'on nous l'annonçait, l'impatience des fans bouillonnait, force est de reconnaître que le résultat est stupéfiant. Si on accepte une courte scène au grain gênant, la copie est splendide, restituant à merveille la pureté de la mise en scène de Carpenter. Assaut débute en fanfare par l'exécution gratuite d'un gang par la police, aveuglé par une justice expéditive et un peu irréelle. Le regard de Carpenter est neutre et glacial. Cette distanciation nécessaire est une percutante entrée en la matière dans un film marqué par l'abstraction. La musique électronique, composée par Carpenter lui-même, hypnotique et minimaliste, renforce cette impression. Fidèle à ses intros chorales présentant plusieurs personnages en montage alterné qui finiront par se retrouver dans un lieu commun, Carpenter démontre dès son second long métrage, après son rigolo Dark Star, un film de SF parodique, une aptitude innée à construire une intrigue simple mais solide, à instaurer un climax topographique saisissant dans lequel évoluent des personnages archétypaux. Les protagonistes de ce thriller urbain vont donc se retrouver assiégés à l'intérieur d'un commissariat par une menace extérieure, c'est des représentants de minorités ethniques, en gros, ancrés dans un réel bien déterminé, mais échappant à toute forme de discours sociologique ou idéologique.
Ah, ça change tout.
Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles.
Y a de quoi ? Personne ne m'a parlé, ni du sang, ni du drapeau.
Ça va, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un peut l'expliquer ?
Ça veut dire qu'ils s'en tapent. Qu'ils n'ont pas peur de mourir. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est notre peau. Et ils y mettront le prix. Ça veut dire... on est foutus.
Assaut n'est ni un pamphlet gauchiste, ni un plaidoyer ouvertement sécuritaire. Les membres du gang de rue de Los Angeles n'appartiennent à aucun groupe social précis. Ils n'ont pas de revendications, ne s'expriment quasiment jamais. Ils semblent par contre animés par une force surnaturelle, les poussant à un rituel de violence assez fort dans ce western moderne teinté de fantastique. Si j'évoque d'ailleurs le western, ce n'est pas un hasard. Un commissariat, ou plutôt le siège du shérif assiégé, un groupe d'individus hétéroclites s'unissant pour affronter un ennemi commun. Ça ne vous rappelle rien ? Un petit effort, c'est un classique du western des années 50, de fin 50.
Il y a une princesse dedans ?
Non, il n'y a pas de princesse.
Je ne sais pas alors.
Alors c'est Rio Bravo. Yeah. Voilà. En fait, plus qu'un remake, Assaut est une variation moderne et ultra-violente du chef-d'œuvre de Hawks, redynamisant sa thématique intemporelle, soit l'amitié improbable entre représentants de la loi et repris de justice face à un problème commun. Les barrières sautent quand il s'agit d'agir. L'exaltation de l'amitié virile, qui n'exclut d'ailleurs pas les femmes dans le film, est un des grands dadas hawksiens, cinéaste fétiche de l'auteur de The Thing, par ailleurs remake aussi d'un film de Hawks. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet. Le montage est signé John T. Chance, le nom du personnage qui incarne John Wayne dans Rio Bravo. Évidemment, il s'agit d'un pseudo derrière lequel se cache Carpenter. En vérité, dans une interview, Carpenter devait vraiment réaliser un vrai remake de Rio Bravo, mais il n'avait pas assez d'argent pour payer les chevaux. C'est vrai. Les acteurs devaient coûter moins cher à l'époque. Le grand vainqueur d'Assaut, en fait, ce n'est pas tant son scénario linéaire et sans grande surprise, mais sa mise en scène épurée et virtuose. Âgé à l'époque de 28 ans, en 76, Carpenter démontre qu'avec un budget misérable et des acteurs inconnus, il est possible d'ambition formelle. Le sens du cadrage et du découpage se déploie dans un univers anxiogène et insolite, mis en valeur par un scope magnifique. Chez Carpenter, d'ailleurs, le scope n'est nullement une afféterie d'esthète. Il utilise toujours intelligemment l'espace et surtout les extrémités du cadre, conférant à certains plans un aspect pictural marqué par l'hyperréalisme. Toujours aussi captivant, 36 ans après sa réalisation, Assaut est ponctué de séquences chocs d'une efficacité redoutable, qui d'ailleurs avait été censurée à l'époque pour des raisons morales. Notamment le meurtre de sang-froid, plein champ, d'une petite fille venue chercher une glace en est un exemple foudroyant. La séquence construite sur un suspense orchestré de main de maître et d'une brutalité inouïe. Longtemps absent d'ailleurs des copies 35, ce passage, assez coquin dans sa mise en place, possède toujours une puissance cinétique qui prouve que la violence transperce le spectateur si et seulement si elle est sublimée par une mise en scène à la hauteur de ce type de séquence. Véritable western étant moderne, on pense aussi à Alamo de John Wayne. Ne faisant jamais l'apologie de la violence, Asso a depuis influencé de nombreux films, des Guerriers de la Nuit de Walter Hill à un film très méconnu mais très intéressant, Siège de Paul Donovan. En France, on a eu Nid Guêpe de Florian Emilio Siri, d'ailleurs le réalisateur de Clo-Clo, qui est quasiment un décalque du film de Carpenter et qui reprend d'ailleurs tout ce qui est unité de temps avec les heures indiquées en bas de l'écran. D'ailleurs, ce sont des affaîtris un peu inutiles à mon avis dans le film. Et surtout, il y a Jean-François Richet, le réalisateur de Ma cité va craquer, qui en a réalisé un remake officiel aux États-Unis en 2002 ou 2003 avec Samuel L. Jackson et Ethan Hawke. Alors, il a transformé l'original en thriller efficace, mais assez passe-partout finalement. Voilà, donc je dirais qu'une chose, à votre porte-monnaie et achetez ce film qui est aujourd'hui un grand film culte. Et on va finir par, par la BO de Carpenter.
Voilà les notes reconnaissables hein, d'une musique signée Carpenter pour un film signé Carpenter. Il a quasiment...
Signé Carpenter. Hmm? Le montage aussi, signé Carpenter.
Eh oui. Et longtemps, il a fait les musiques de ses films, sauf vers la fin.
Sauf vers la fin, hein, il a délégué à son fils, Cody Carpenter.
C'est une histoire de famille. Allez, c'est maintenant l'interview au téléphone pour parler eh bien, des semaines du ciné méditerranéen en Pays de Lunel.
Cinérama sur Divergence FM.
Bonjour Michel Perrier.
Bonjour.
Alors vous êtes le président de Pêcheurs d'Images qui organise ces semaines du cinéma méditerranéen en Pays de Lunel. Alors avec vous, eh bien, on va essayer de faire le tour un peu de cette programmation, mais parler surtout eh bien, des gros événements. Alors pour résumer quand même, forcément, eh bien, c'est du cinéma méditerranéen, mais ce n'est pas forcément du cinéma que vous prenez eh bien, du côté de l'autre rive. Hein, c'est du cinéma français, vous prenez aussi du cinéma du Moyen-Orient et puis du cinéma du Maghreb.
De toutes les rives, donc, de la Méditerranée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Il y a des films qui sont sortis, qui ont plutôt bien marché et que vous reprojetez. Et puis, il y a quelques surprises aussi.
Voilà, mais en fait, chaque année, on fait un petit peu, pour employer un gros mot, le best-of du cinéma méditerranéen de ces 12 derniers mois, quoi, hein, grosso modo. Donc, nécessairement, effectivement, vu... l'échelonnement de sortie des films, il y a certains sont sortis tout de suite après Cannes en 2011, l'été dernier, à l'automne. Mais comme le cinéma méditerranéen est très mal distribué quand même dans l'ensemble, et malgré le succès de certains d'entre eux, il est bon de les ramasser dans une période donnée, maintenant depuis 28 ans, entre 10 et 14 jours, 14 jours en comptant les scolaires. Mmh. Et donc le public y revient, hein, je pense à un film comme... Les Neiges du Kilimanjaro, qui a eu un bon succès et qui aura encore son succès à Lunel pour la reprise.
Alors ce sera ça projeté le dimanche 25 mars et ça nous donne l'occasion de dire qu'il y aura Laurent Laffrand, donc, qui est ingénieur du son sur ce film et qui pourra donc répondre aux questions du public.
Oui, c'est l'ingénieur du son de Guiniguer maintenant depuis quasiment 25 ans. Quoi.
Alors les projections se passent à l'Athénée Lunel et puis à la salle Castel, c'est bien ça?
Oui, mais il y a une grosse nouveauté quand même cette année, c'est au-delà de l'Athénée qui est le cinéma de Lunel et de la salle Castel qui est une salle municipale, nous travaillons depuis quelques années, mais cette année c'est très renforcé avec la communauté de communes et donc nous avons des soirées décentralisées assez fortes et qui sont multi-artistiques parce que on mêle autour de certains thèmes à la fois le cinéma et puis une autre forme de création artistique. Alors par exemple à Saint-Christol, le 24 mars, ça sera chorégraphie et cinéma. À Saucine, la veille, ça sera théâtre et cinéma. Ça sera à Boisseron, Féti Tabé, le musicien et le cinéma. Donc voilà, les soirées spéciales qui de plus en plus s'installent en collaboration avec des associations et les mairies de la communauté de communes de Lunel.
Allez, maintenant on va écouter un petit extrait d'un film qui a remporté un César cette année que vous allez projeter, c'est Le Cochon de Gaza.
Tu as vu ça?
Quoi donc? Ah, ça, oui, je l'ai pêché l'autre jour, je sais pas quoi en faire.
C'est un cochon, ça? C'est un cochon?
Non, c'est une sorte de, je ne sais quoi, une nouvelle espèce, apparemment.
Jafar, c'est un cochon que t'as fait entrer?
Oui, peut-être, mais je sais pas, ça ressemble à un cochon, mais en fait, qu'est-ce qu'on en sait?
Alors voilà, donc extrait du Cochon de Gaza. Alors, ça fait partie des films, effectivement, qui ont déjà été projetés. Ensuite, il y a des films qui vont sortir, notamment Normal de Merzak Alouache, qu'on écoutera un peu plus tard dans notre émission, puisqu'on l'a rencontré à Montpellier. Hein, vous allez projeter son dernier film à 18h30 demain, jeudi 29 mars.
Normal, c'est un film en plus qui a la particularité d'être distribué par les Films des Deux Rives, qui est une société de distribution. Qui a son siège social à Montpellier. Normal, c'est aussi un film qui est, en même temps qu'il témoigne de l'Algérie 50 ans après l'indépendance, il est aussi un petit clin d'œil au printemps arabe qui a débuté en Tunisie, en Égypte, et qui a un petit peu agité la jeunesse algérienne il y a environ un an. Donc nous aurons la comédienne Adila Bendimerad qui sera présente parmi nous.
Alors il y aura d'autres personnages présents, des réalisateurs, on peut peut-être en parler parce qu'il faut faire vite malheureusement. Qui est-ce qu'on pourra voir lors de cette semaine?
Donc au-delà de Laurent Laffrand, ingénieur du son de Robert Guédiguian, nous aurons Charlotte Vincent, la productrice du film Sur la planche de Leïla Kilani, qui a eu un beau succès et qui continue à avoir du succès. Nous aurons les chants de mandrins de Rabat Mersaïmèche avait eu le prix Jean Vigo l'année dernière et nous aurons le comédien Sylvain Roum. Alors, un film qui malheureusement a un écho particulier, c'est la désintégration de Philippe Faucon qui raconte la dérive de jeunes maghrébins dans une cité française. Et nous aurons pour ce film-là Rachid Debbouze, le frère de Jamel Debbouze, qui sera là, qui sera présent le jeudi 29 mars. Comme autre invité, nous aurons Jean-Jacques Geoffrey, le réalisateur de Après le Sud, le 31 mars, film qui avait été remarqué à Cannes. Et en clôture, nous aurons le réalisateur algérien Nahla, Farouk Beloufa, le réalisateur de Nahla. Donc voilà, des métiers qui couvrent à peu près la chaîne de fabrication du cinéma, hein, puisque nous avons le son, nous avons le réalisateur, nous avons des comédiens. Nous avons aussi, bien entendu, des courts-métrages avec deux réalisateurs qui viendront à la médiathèque du Lunel pour témoigner de la création en région Languedoc aussi.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Perrier. On a fait vite, alors, mais on propose aux auditeurs d'aller sur votre site pêcheurdimages.fr pour avoir bien tout le programme de ces 28e semaines, c'est au pluriel, du cinéma méditerranéen de Lunel, pardon. Et c'est du 22 mars au 3 avril. Et on va se quitter bien justement avec un extrait du film de Philippe Faucon qu'on a beaucoup aimé ici à Cinérama, La Désintégration. Donc on rappelle que vous recevrez le comédien Rachid Debbouze. Donc ce sera le jeudi 29 mars à 21h à l'Athénée Lunel. A noter aussi qu'il y avait un autre comédien fort intéressant qu'on va entendre dans cet extrait. Merci beaucoup Michel Perrier.
Merci.
Je te dis ça, je ne veux pas te décourager, hein. Mais c'est juste une réalité, faut que t'en aies conscience pour que tu puisses avancer, c'est tout.
De toute façon, je vais continuer à chercher et puis après on verra, Charles.
Comment tu t'expliques que tu trouves pas? Vous êtes des Français, soi-disant, vous avez fait des études, vous êtes instruits, mais vous avez droit à rien. Ils ont peut-être eu besoin de vos parents un moment pour ramasser des poubelles et tenir des marteaux-piqueurs, mais à partir du moment où vous aspirez à faire autre chose, là, ils veulent plus de vous. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils pensent que vous valez moins qu'eux.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on passe maintenant à Projet X. Alors après Devil Inside et Chronicle, voici le troisième found footage movie à débarquer en 2 mois sur les écrans. Le found footage movie, qu'est-ce que c'est? Littéralement, métrage retrouvé, le found footage movie se compose de fausses images vraies. Le principe consiste à faire croire que tout a été filmé par des amateurs, puis découvert comme de par hasard par les cinémas multiplex. Alors si l'on a pu y croire à 13 ans devant le projet Blair Witch, premier d'une longue série, on commence à présent à se lasser un peu du genre. Ce prétexte à une mise en scène brouillonne et voyeuse a vite causé l'essoufflement du phénomène. Si dans Rec, le genre est encore bien exploité, le cinéma gore a définitivement fait tomber le footage movie dans le cliché qui ne surprend plus personne. Seul De Palma avait eu l'idée de mélanger le genre avec celui du film de guerre lorsqu'il avait réalisé le très bon Redacted, chronique de la guerre d'Irak, à travers des images soi-disant filmées par des soldats américains. Dans Projet X, la volonté n'est guère militante, mais tout juste ludique, à savoir donner l'impression au spectateur qu'il se trouve lui-même au milieu d'une fête démentielle grâce à cette fameuse caméra subjective. Autant vous prévenir, si vous avez dépassé l'âge d'être bourré en buvant de bière, vous risquez de vous ennuyer. Le scénario tient sur un ticket de tram. Ado numéro 1, ado numéro 2 et ado numéro 3 décident de profiter de l'absence des parents de ado numéro 1 pour faire une énorme soirée dans leur maison et ainsi devenir les mecs les plus cools du lycée. Et tenez-vous bien, ado numéro 4 va filmer tout ça. L'ado en question est bien évidemment un gothique sociopathe qui trouve dans sa caméra une raison d'être, car dans les films américains, c'est bien connu, les jeunes boutonneux aspirants cinéastes sont toujours représentés comme des autistes frustrés et non comme des Xavier Dolan en puissance. Je vous le donne en mille, quant à la suite des événements, ça va très mal se passer. Alors on pourrait penser, de par ce scénario inepte et ce parti pris de mise en scène devenu une habitude, que le film ambitionnerait au moins de se rattraper sur des situations comiques et pourquoi pas d'en faire une parodie de found footage movie. Seul problème, l'humour qui se voudrait mordant ne dépasse pas le premier degré, à savoir des plaisanteries vaseuses sur l'alcool et le dépucelage. Conclusion, et là je m'adresse à tous les réalisateurs, on sait que les ados sont bêtes, c'est pas la peine d'en faire un film, à moins que vous ne vous appeliez Riyad Satouf et que vous n'ayez réalisé Les Beaux Gosses. Les dialogues du film donc se résument à une suite de blagues carambars qui donnent envie de quitter la salle, ce que j'ai fait d'ailleurs. Cela dit, lorsque l'on constate, bon c'est vrai qu'un mec qui dit pas de bras, pas de chocolat, ça fait 20 millions d'entrées, c'est vrai, pourquoi se creuser la tête hein ? Là en l'occurrence, ça fait plutôt penser à du mauvais Michael Youn, ce qui est déjà un pléonasme, à savoir que cela va sans doute donner plein d'idées bien débiles à tous les jeunes spectateurs. Alors attention, je préfère prévenir tous les jeunes individus qui nous écoutent. Les filles, dans la vraie vie, ce n'est pas comme dans le film. Si vous mettez du hip-hop à fond, elles ne se jetteront pas forcément toutes nues dans la piscine. Ce n'est pas un réflexe pavlovien intrinsèque aux femmes. Non, ce n'est pas vrai. À noter d'ailleurs que dans le film, une fille n'est pas nommée en tant que telle. Un nom, c'est ouvrez les guillemets, un vagin influençable. Vous noterez la délicatesse de la périphrase. On dirait du Baudelaire. Donc quand American Pie rencontre Very Bad Trip tout en se prenant pour Las Vegas Parano, eh bien ça donne un projet qui n'a même pas pour lui les qualités d'un bon divertissement et qui résonne plutôt comme une symphonie bruyante de mauvais clichés, sortie tout droit de l'imaginaire sans doute frustré d'un réalisateur débutant. Mais comme dirait Audiard, les cons ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Allez, on va se saouler avec la bande-annonce.
Tu crois qu'on peut dire que j'assure ?
C'est qu'il a léché pour le héros de la soirée maintenant.
Que ça, qu'est-ce que tu fous ?
Je réponds.
Ok, et je veux aussi ton cul poupée. Mais qui parle comme ça ?
Bah, moi. Et ça marche. Y'a un mini-neck dans le four !
Normal, nos couilles sont à la hauteur de ses yeux.
Le fais pas, mon pote. T'es beaucoup trop gros. Ferme-la.
Thomas Cobb, et c'est mon anniversaire.
Ce sera super, ça vaut vraiment le coup que tu passes.
C'est dans Deacon Street.
C'est votre fête, c'est vous qui organisez là-bas ?
Eh ben voilà, oh, c'est là que je vais.
Mais pareil, ça va être un truc de ouf, cool.
Je vous dis à ce soir alors.
Quoi ? Occupe-toi de ta caisse, fossile.
Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein. Quand même, on n'aurait pas voulu rater ça. Donc je vous le conseille pas, et du coup je vous dis pas où ça passe.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
On va passer à du bien meilleur cinéma maintenant avec 38 témoins. Alors dans Rapt, Lucas Bellevaux retranscrivait un fait divers, l'enlèvement du baron Empin, un riche industriel, mais s'intéressait surtout à ce que les journaux n'avaient pas relaté, le retour de cet homme après 60 jours d'emprisonnement, qui a vu pendant sa captivité sa vie dévoilée et qui ne retrouvera plus jamais l'existence qu'il avait. Dans 38 témoins, l'intention est la même, partir d'un fait divers, le meurtre d'une jeune fille, pour démonter les mécanismes des dégâts collatéraux. Louise et Pierre, interprétés par Sophie Quinton et Yvan Attal, mènent une vie de couple paisible dans un quartier du Havre. Une nuit, alors que Louise est en voyage d'affaires, un assassinat se déroule sous leur fenêtre. Sur les 38 riverains interrogés, personne n'a rien entendu, prétextant l'heure tardive, les somnifères ou le sommeil. Mais Pierre, hanté par la culpabilité, décide de revenir sur son témoignage. Les cris de la victime étaient si forts que personne n'a pu les ignorer. À commencer par lui, qui a préféré se taire et continuer à dormir. 38 témoins ne s'intéressent pas à la victime du crime, mais aux victimes. À première vue peu éloquent, le film révèle en fait son intensité au fur et à mesure que les personnages se fissurent et laissent apparaître leurs failles sous leur apparente banalité. Encore une fois, Lucas Bellevaux dissèque l'âme humaine pour en révéler les pires aspects, nous rendant témoins des témoins et de leur lâcheté ordinaire, évitant la démonstration et la morale pour sonder l'intime. S'il dépeint aussi avec justesse quelques beaux sentiments, la compassion ou l'amour, c'est pour les dissoudre aussitôt dans l'acide de la médiocrité. À ce jeu-là, les acteurs se révèlent excellents, totalement ambivalents, tout à la fois impénétrables et à fleur de peau. Yvan Attal, qui semble avoir trouvé en Lucas Bellevaux le meilleur des collaborateurs, est une fois encore, après Rapt, totalement habité par son personnage. Et Natacha Régnier, déjà présente dans la raison du plus faible, mais trop rare au cinéma, porte ici un second rôle moins anodin qu'il n'y paraît. Malgré une impression gênante de dialogue qui sonne un peu faux et une réalisation à la froideur assumée, le film monte vite en puissance pour s'achever par des scènes intenses, hantées par les non-dits et magistralement filmées.
Et on va écouter Lucas Bellevaux, puisqu'on est très pressé.
Tout le monde a été interrogé par la police, tout le quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul.
Vous partez en fait dans le film d'un fait divers très médiatisé pour arriver à l'intimité des gens qui ont été confrontés à ce fait divers. Et dans Rapt, c'est un petit peu le même principe. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous intéressez pas tellement aux faits divers, mais davantage à ce qui se passe ensuite. Donc est-ce que partir du fait divers comme ça pour sonder l'âme humaine, c'est un petit peu votre style ?
Oh, je pense que c'est le style de tous ceux qui sont intéressés aux faits divers, enfin, qu'on filmé des faits divers, ou qui s'y sont, enfin, ceux que j'aime en tout cas, que ce soit Chabrol ou plein d'autres. Donc, ce qui est intéressant dans le fait divers, c'est pas l'acte en soi, c'est où, comment on y arrive, ou ce qu'il y a avant l'assassinat, ou ce qui est le cœur du fait divers, ou alors ce qu'il y a autour, ou ce qu'il y a après. C'est ça qui est intéressant à raconter. Sinon, on est dans une scène de violence. Et puis voilà, c'est pas plus intéressant que dans un film d'action en soi. Donc dans Rap, je traitais un peu plus le fait divers parce qu'il était singulier dans son cœur et dans son déroulement. C'est-à-dire qu'il y avait une sauvagerie quand même qui était extrêmement présente et très... Ça commençait quand même par un doigt qu'on coupe au couteau, quoi. Donc c'est... Et puis c'était 60 jours. Donc le récit vraiment du fait divers dans Rapt, ça durait à peu près les trois quarts du film à peu près. Et puis, alors évidemment, à l'intérieur de ces trois quarts, il y avait déjà une partie sur l'intimité de la famille et ce genre de choses. Mais en gros, là, je traitais quand même beaucoup plus le fait divers en soi, et puis les conséquences autour. Ici, le fait divers en soi ne m'intéresse pas. Je ne montre pas le crime, on connaît très peu la victime, et on ne connaît pas du tout l'assassin. Donc, il n'y a que la périphérie qui m'intéresse, parce que la singularité de ce fait divers-là, ce qu'il nous raconte, c'est que 38 personnes n'ont rien fait, ont accepté, sans bouger, sans réagir, l'assassinat d'une jeune fille en bas de chez eux. Et donc, quand je dis accepter l'assassinat, ils n'ont pas tous pris conscience au même niveau de ce qui se passait. On peut en discuter après, mais en gros, c'est quand même ça. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Donc, les 38 témoins, cette histoire de témoins, avec tout ce que ça implique, à la fois l'intime et le général, sur la presse, sur la justice, sur la police, c'est le cœur du film. Et donc je traite ça dans ce film-là. Je ne pouvais pas traiter chaque témoin, j'avais pas le temps de traiter, puis j'avais pas envie de traiter l'assassinat proprement dit. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment les conséquences.
Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde.
Alors il y a deux personnages qui sont quand même principaux, c'est le couple, qu'on voit une bonne partie du film, mais il y a aussi les personnages secondaires qui sont importants, notamment la journaliste, une journaliste qui essaie de retracer ce qui s'est passé et puis qui essaie d'avoir des informations de la part des éventuels témoins. Et puis elle est confrontée à un juge qui se dit « mais de toute façon, je suis moi garant de l'ordre public, il est hors de question de mettre ça, enfin ces histoires de 38 témoins, sur la place publique ».
Il ne le dit pas vraiment dans ces termes-là. Il est moins péremptoire. C'est-à-dire que il y a trois personnages institutionnels, je dirais. Il y a un flic, une journaliste et donc ce procureur de la République. Chacun est dans son rôle. Les acteurs, ils appellent ça jouer des fonctions. C'est-à-dire que dans des films, en général, quand on se retrouve avec un juge, un curé, un journaliste, un policier, etc., on joue essentiellement la fonction dans ce qu'elle porte. Et puis, il y a peu de place pour l'humain ou pour l'humanité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'humanité qui est dans la fonction. Comment tous ces métiers, finalement, ils sont faits par des êtres humains comme nous, comme la victime, comme le coupable, et aussi comme les témoins. Et leur travail est contaminé par l'humanité. Et donc, ils vont tous se poser des questions qui n'ont trait qu'à l'humain. Quand ils parlent, le procureur, de ne pas poursuivre, quand il envisage de ne pas poursuivre, il se pose la question. Il se pose la question, après, comme un procureur peut se la poser, aussi en termes d'ordre public, mais pas uniquement. Enfin, la question, il se la pose parce que il est dans une logique utilitariste. Est-ce que ça a un sens de poursuivre 38 personnes dans ce cas-là? Est-ce que, finalement, l'effet ne sera pas plus gênant que le fait de ne pas juger? Est-ce que ce jugement, ce procès aura un sens? Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire de juger dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça aura de pédagogique, en quelque sorte? Donc il se pose la question. Il dit pas « je ne vais pas le faire ». Il dit « peut-être il faudra que je fasse ». Mais en tout cas, pour le moment, j'aurais tendance à ne pas le faire. Mais il se pose la question. Comme la journaliste se pose la question. Est-ce que je révèle ou est-ce que je ne révèle pas? Elle est dans la même problématique, comme on dit. Elle n'est pas sûre qu'elle va révéler cette histoire. Elle est dépositaire d'un secret. Et après, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça fera pas plus de mal que de bien? À la fois pour ses témoins, qu'elle connaît quand même la plupart, pour les avoir au moins croisés, elle les a vus vivre. Et est-ce que ça vaut le coup de détruire leur vie dans quel but? Au nom de quoi? Et donc la question qu'elle se pose, c'est ça. C'est au nom de quoi? Qui je suis pour révéler ça, quoi. Le flic, d'ailleurs, est exactement dans le même questionnement.
N'empêche qu'on a l'impression que la journaliste essaie de comprendre, effectivement. Et bon, elle est sans doute attirée par son papier, mais elle a des questions, effectivement. Tandis que le procureur, lui, semble avoir des réponses. Enfin, quand il dit « mais qu'est-ce que vous comptez apprendre là-dessus, finalement ?»
Oui.
Sur la lâcheté.
Mais chacun parle en fonction de son expérience, de son métier, de son vécu. Et donc, lui, son expérience, c'est de dire, voilà, en 30 ans de procès, j'ai vu toujours la même chose. C'est-à-dire que dans les cas extrêmes, on ne comprend jamais. On ne comprend pas. On ne comprendra jamais pourquoi. Et moi, je crois qu'il a raison. Dans ce cas-là, les 38 témoins, je ne comprendrai jamais pourquoi ils n'ont rien fait. Hein. Après, on peut trouver des explications. Lui, il les qualifie de lamentables, pitoyables. Il dit que ça sera un pauvre procès, mais comprendre, on ne comprendra jamais. Alors, ça peut avoir une valeur pédagogique, morale, on peut dire, voilà, rappeler la loi, effectivement, avoir des questions morales, mais comprendre, il n'est pas sûr qu'on comprendra, il est même sûr qu'on ne comprendra jamais. Elle est dans une posture à la Simenon, à la Maigret, qui est comprendre, pas juger, ce qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens. On ne peut pas juger sans comprendre, mais ça n'a pas de sens de comprendre et de ne pas juger. C'est même une lâcheté, je pense. On juge aussi de son point de vue. Ça n'a de valeur que humaine. C'est une justice humaine. Mais en même temps, on juge au nom d'une loi et au nom d'une morale.
Donc finalement, vous exprimez un peu dans la bouche du procureur dans le film. Quand il fait son long monologue justement sur le fait de comprendre, de juger...
Oui, en même temps, je ne suis pas entièrement d'accord avec lui, parce que moi, je pense qu'il faut poursuivre, alors que lui aurait tendance à ne pas poursuivre. Moi, je suis dans tous les personnages. Je suis dans les témoins, je suis tous les personnages. Dès qu'il y en a un qui ouvre la bouche, c'est ma bouche. C'est Madame Bovary, c'est moi. Mais c'est là où ça amène de la complexité. C'est-à-dire que, ou de la réflexion, c'est des questions qui se posent. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je pense que c'est des questions qui valent d'être posées tout le temps.
Tant que vous n'avez pas signé, ça peut rester entre nous. Votre témoignage n'a aucune existence légale. Alors réfléchissez bien. Parce que si vous mentez, vous devrez en assumer toutes les conséquences. Et elles seront lourdes. Vous maintenez votre déposition ?
Oui.
Avant de lancer la machine, donnez-moi une bonne raison de penser que vous êtes plus crédible que les 37 autres.
Demandez-vous qui a intérêt à mentir.
C'est un film qui fonctionne beaucoup sur les récits. Donc c'est raconté, avant d'être imaginé, c'est raconté une première fois par le personnage de Nicole Garcia, c'est raconté une deuxième fois par le personnage d'Yvan Attal, les choses sont racontées. Ce qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas entendues à leur juste mesure ou à leur juste valeur. Et donc on s'arrange d'un récit toujours, et puis après, il y a un moment où on entend vraiment, et là c'est plus la même chose. Et alors on voit aussi, on voit des choses, et on se rend compte que parfois on voit, on croit voir, et on ne voit rien. C'est assez rigolo, c'est une reconstitution où effectivement c'est le son qui va être révélateur de tout. Mais c'est souvent le cas. Hein.
Je sais ce que j'ai entendu.
T'as pu faire un cauchemar. Tout le monde fait des cauchemars.
Oui, mais il n'y a que les fous qui confondent leurs cauchemars avec la réalité.
En fait, là, le fait divers marque le début de la fin d'un couple.
C'est un film qui parle de la relation amoureuse en temps de crise, je dirais. Elle est innocente. Pour le coup, elle n'a rien fait, elle n'était pas là quand ça s'est produit. Elle va se rendre compte progressivement que son mari n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Quelque part, c'est une abomination. Et pendant pratiquement tout le film, elle va le soutenir, elle va l'aider. Elle va essayer de l'aider à sortir de sa culpabilité, de relativiser, de le mettre face à une réalité potentielle, à essayer de comprendre, justement, encore une qui essaye de comprendre. Elles sont deux, au moins, à essayer de comprendre tout le temps. Et puis, elle ne comprend pas. Et puis, il y a un moment... Donc elle va entendre son récit, elle va entendre sa confession. Il va lui raconter très, très précisément ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé. Il ne ment pas. Et pourtant... Elle accepte, enfin, elle continue à l'aimer comme si de rien n'était, elle prête à le justifier, à trouver des arrangements avec ça. En gros, elle s'arrange avec ce qui l'arrange, elle. Elle s'arrange d'un récit, d'une réalité, d'une situation. Parce qu'elle est dans le déni. Elle ne veut pas, parce qu'elle a peur de perdre son amour, de ne pas savoir quoi en faire. Et puis, à un moment, bah, le déni, ça ne marche pas tout le temps. Quoi. Ça ne marche pas jusqu'au bout. Et elle va être confrontée à la réalité. Et à ce moment-là, bah, elle se rend compte que l'homme avec qui elle est n'est pas celui qu'elle aimait. Enfin, celui avec qui elle vit n'est pas l'homme qu'elle pensait qu'il est.
C'est un peu dur comme constat. Ça veut dire finalement qu'à la première épreuve, le couple ne dure pas beaucoup, quoi. se délite assez facilement.
C'est pas la première épreuve, c'est
elle est déçue assez rapidement, finalement.
Non, elle n'est pas déçue rapidement. C'est le choc de la réalité. C'est tout à coup se rendre compte que l'homme avec qui on vit et l'homme qu'on aime, ça pourrait être l'inverse aussi, n'est pas aimable, tout simplement. C'est que tout à coup, il y a un truc insupportable. Ce qu'elle entend, c'est insupportable. C'est insupportable pour tout le monde, pour tous ceux qui entendent ses cris. Et se dire, il a entendu ça et il n'a rien fait, comment on vit après avec un homme comme ça? Comment on l'aime encore? Alors effectivement, il y a un raccourci dans un film. Le film fait une heure et demie, sinon il aurait fallu repartir pour une heure et demie. Mais je pense qu'on ne s'arrange pas d'un truc comme ça. Ou alors c'est à nouveau de la lâcheté, quoi. C'est une lâcheté. Bon, après, on peut vivre entre lâches, hein. Ça, peut-être, mais c'est un drôle d'amour.
Bien écrit, bien filmé. En ce qui me concerne, 38 témoins de Lucas Bellevaux. On peut dire même que son précédent film Rapt et puis La raison du plus faible font partie aussi eh bien, des très bons films. Tout est bon chez ce garçon. On peut résumer comme ça?
Oui.
D'autant qu'on est pressé, hein, donc voilà.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
On n'écoutera pas Merzak Kalwash, on l'écoutera la semaine prochaine. De toute façon, son film normal sort aujourd'hui, donc on a le temps d'en parler. Mais voici tout de suite l'agenda avec demain au cinéma Diagonale à 20h, la projection du film West Side Story de Robert Wise, présenté par Guillaume Boulanger, maître de conférence à l'université.
Également demain, au Nestor Burma, la maison de l'architecture Languedoc-Roussillon propose à 20h la projection du film L'homme d'à côté de Gaston Duprat et Mariano Cohn, séance présentée par Carme Pigem, qui est architecte.
Et le directeur de Nestor Burma ne sera peut-être pas là pour présenter cette séance, hein, puisqu'il jette l'éponge. Le 22, le ciné-club Jean Vigo propose la projection débat autour du film Quand la panthère ressemble de Black Edwards. C'est au centre Rabelais à 20h.
Vendredi, au ciné Mistral, il y aura une soirée ciné-musique algérienne avec deux films, El Gusto et La Place, et un apéro oriental qui aura lieu dès 19h.
Et puis à 7, le même jour, vendredi, l'association Ciné Sétois propose à 20h30 au cinéma Comédia la projection du film Soleil trompeur de Mikhail Koff, et c'est suivi d'un débat.
Dimanche, à Montpellier, le cinéma Utopia proposera à 10h30 le petit-déj et la projection du film « Y'a pire ailleurs » de Jean-Henri Meunier. Ce sera suivi d'un débat avec le réalisateur.
Et ce lundi, au Diagonale, c'est à 20h la projection du film « Low Life » de Nicolas Klotz. C'est une séance suivie eh bien, d'un débat avec le réalisateur et c'est dans le cadre du festival hybride dont Divergence FM est partenaire.
Toujours lundi, à l'Utopia, vous pourrez voir un programme de court-métrage d'animation qui utilise Blender, ce qui est une suite d'outils de modélisation 3D sous logiciel libre.
Oui, qu'on adore à Divergence FM aussi. Et puis, le mardi 27, au Gaumont Multiplex, il y a deux avant-premières. Tout d'abord Young Adult et puis Today's in New York de Julie Delpy. Et c'est à 20h. Et puis, on peut préciser qu'à l'Utopia, eh bien, passe toujours à l'ombre de la République, El Chino et Si on vivait tous ensemble, les nouveaux chiens de garde, Millennium, Oslo 31 août, Terra Firma, The Artist, The Descendants, Une bouteille à la mer, Y'a pire ailleurs et Zarafa.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Henri Talva, Merzak Kalwash et sans doute Nicolas Klotz, ce sera la semaine prochaine dans Cinérama.
Et tout de suite après, le 24 notes seconde sera consacré à Robert Wise,
dont on a parlé et qui est un grand réalisateur. Merci Manu, merci Marine. À la semaine prochaine.
Au revoir à tous.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.